Bonjour, bienvenue sur Underscore. Si il y a bien des supports décédés, certains les font revivre avec du rhum.
Ips.
Bon,
bonjour Yvan, bonjour Maître Belle, bonjour Flo.
Bonjour Cécile.
Salut, salut.
Et bonjour les auditeurs.
Allô,
et bonjour, bonjour. Eh bien oui, vous voici dans Underscore, l'émission qui vous dit tout sur le numérique. Retrouvez-nous sur Radio Méga 99.2 FM, là où nous enregistrons notre émission, mais également sur Radio Cactus 92.2 FM à Saumur-en-Brionnais. Et puis, pour revenir sur notre sujet du jour, à savoir, oui, des gens qui font revivre des choses décédées.
Oui.
Décédées. Bah oui, des CD-ROM.
Tutut.
Et oui, non, non, c'était pas du tout.
C'était pas tutut.
Ça venait pas des îles, tout ça.
En plus, c'est. Rome, si tu mets à l'envers, c'est mort. C'est des CD-ROM.
Ah oui,
c'est des morts.
Ça a été un peu compliqué, on vous en parlera.
Et oui, parce que François est allé voir l'ISAD, c'est ça ?
Oui, l'école d'art et de design de Valence.
Qui a organisé une exposition spécifique sur le CD-ROM.
Une biennale sur la publication. Donc, c'est un petit reportage, dans des conditions un peu moins bien que celui de la semaine dernière, parce que du coup, on a voulu se mettre dehors, mais il y avait un peu des bruits. Donc on a
nettoyé
deux,
le fichier.
On a nettoyé un peu, mais...
Maître Belle nous a donné un coup de baguette magique. On espère que ce sera suffisamment bien pour vous...
Pour arriver à suivre.
Voilà.
Mais d'abord...
Eh bien, de l'actualité.
Ah.
Le disque optique pourrait faire un comeback. Une annonce d'un nouveau disque optique pouvant stocker l'équivalent de 15 000 DVD. C'est ça ?
Eh oui.
15 000 DVD
voilà.
Pourrait relancer ce média. Ou pas, vu que c'est la première annonce de ce genre.
C'est pas la première annonce.
Pardon.
15 000 DVD, c'est énorme quand même.
Oui, un tera et 4. Mais bon, c'est pas la première fois qu'ils nous font ces annonces et qu'on voit pas. Hein.
Ah.
15 000 films, rien. On a enfin trouvé une utilité au port d'extension de la NES. En effet, RetroTime propose la NES Up, qui lui ajoute les mêmes ports que la Famicom, jusqu'à 4 manettes sans fil, et même un pad de Super NES.
C'est cool ça. L'open source évalue entre 1 et 6 milliards de dollars. Un papier de la Harvard Business School Strategy Unit, estime le coût à dépenser si la société voulait recréer tous les logiciels libres utilisés dans le monde. Ça, c'est si la société le faisait, si on se cotisait tous pour le faire. Mais entre 2 et 13 trillions si chaque entreprise devait les redévelopper chacune de zéro. Donc voilà. Mais c'est pas pour ça qu'ils payent qu'ils financent le développement. Hein. Ils pourraient en financer un petit peu quand même. Mais bon.
Ouais. Fred arrive dans le fait divers. Oh, c'est vrai ? Enfin, dans la partie qui accepte de se fédérer avec lui.
Ouais,
faut dire aussi, faut avoir envie. Hein.
Oui, et puis c'est les États-Unis, le Canada et le Japon, je crois, en plus.
Ah oui,
bah, oui, c'est méta. Mais alors, par contre, il y a Joe Biden qui, du coup, arrive sur le fédérer, mais en fait, sur Threads. Donc, voilà.
D'accord.
C'est à moi. Il est possible de créer des corpus d'entraînement d'intelligence artificielle sans enfreindre le droit d'auteur.
Ah, bien.
Des chercheurs financés par la France ont en effet produit des données d'entraînement à partir d'œuvres du domaine public.
Ah, bon, bah ils ont déjà tout aspiré le domaine privé, donc maintenant ils vont s'occuper du public.
Résolution de l'ONU sur l'IA adoptée à l'unanimité et elle veut soutenir des systèmes sûrs, sécurisés et dignes de confiance qui doivent bénéficier également au développement durable pour tous. Next détail que ce texte évoque une collaboration nécessaire avec les pays en développement tout en oubliant les travailleurs du clic.
Mince alors.
C'est sûr.
VLC n'est plus mis à jour sur le Play Store Android. Alors c'est très compliqué comme il nous l'explique. Google voulant absolument obtenir la clé privée servant à la signature de l'application. C'est pas vraiment...
privé.
Ils ont envie de... Bah oui, si on la leur donne, elle est plus privée, quoi, par définition.
Bah bien sûr.
Passer à F-Droid.
Je dis ça, je dis rien.
L'État lance un appel à projet pour renforcer dans le secteur français du cloud. BPI France, pour le compte de l'État, dans le cadre du plan de France 2030, lance un appel à projet renforcement de l'offre du service cloud qui s'inscrit en réponse au développement des IA génératives. Ils peuvent pas juste, je sais pas, financer une Nextcloud ?
Ouais, bonne idée.
SDL3 préférera Wayland à X11. Enfin, je sais pas, moi je dis X11, perso.
Oui, pareil.
D'un coup, je me pose la question. La vraie info étant surtout que le développement de la version 3 de SDL est entamé.
Et enfin
Le Schleswig-Holstein passe au libre l'État allemand de Schleswig-Holstein après avoir adopté une stratégie libre open source. Bien pensée fera passer ses activités numériques sous GNU Linux et d'autres logiciels libres. Ça commence avec LibreOffice.
Bravo.
Eh bien, merci, Ahmed Bell, parce que là, j'aurais pas fait mieux, parce que franchement, moi, j'ai pas du tout d'accent allemand, et je pense que ton côté belge te permet d'avoir des capacités supérieures.
C'est les cordes vocales qui s'effritent. Hein.
Une fois.
Deux fois. Trois fois, jugé.
Ça marche. Allez, eh bien, on écoute Dopamine, une petite musique pour se retrouver après pour notre sujet du jour avec l'exposition CD-ROM à l'ESAD. À tout de suite. Il s'agissait de Dopamine, de Soda Seven.
C'est bon, vous êtes réveillé ?
Ah oui, complètement. Il s'agissait d'une musique qui a illustré une intro Amiga, qui a terminé troisième à la révision 2024. Et oui, pour nos amis auditeurs, ceux qui n'ont pas été sages à Pâques, qui ont préféré aller chercher du chocolat, moi, je suis allée chercher des musiques sympas, issues de la démo scène et notamment de la révision, une démo partie allemande qui s'est déroulée lors du week-end de Pâques.
Et bien sûr, on vous met le lien vers la vidéo de la démo aussi sur le blog.
Et oui. Et ne t'ont pas posé un lapin.
C'est ça, exactement. Passons au sujet du jour.
Oui, et ben, je suis allé à l'ESAD, donc l'École supérieure d'art et de design de Valence, Parce que j'ai appris l'existence d'une exposition alors, qu'on a annoncée il y a 2 semaines, je crois, mais qui était assez courte. Donc là, malheureusement, c'est terminé. Sur des CD-ROM, en fait. Donc, un professeur de l'ESAD qui expose une toute petite partie de sa collection de CD-ROM dans le cadre d'un événement. Et j'ai souhaité l'interviewer. Donc, je vous propose d'écouter ensemble. Bonjour Gilles Rouffineau, qu'enseignez-vous ici à l'ESAD de Valence?
Ma spécialité d'origine est liée à ma formation et la photographie. Et les expositions dont on parle aujourd'hui sont plutôt liées à une autre activité qui est celle d'une analyse, d'une collection de titres numériques des années 90. Voilà, qui correspond aussi à une activité que j'ai en cours, puisqu'il y a à la fois cette exposition de collection et des travaux pédagogiques menés avec des étudiants de troisième année en particulier, depuis quelques années.
Votre exposition s'inscrit dans la Biennale Exemplaire, se déroulant au Clévos à Étoile. De quoi s'agit-il exactement?
Alors, la Biennale Exemplaire est un événement qui a eu 5 occurrences dans les années passées, avec des écoles partenaires qui sont des écoles d'art en France. Lyon, Strasbourg, Rennes et Toulouse. Et donc Valence est le 5e édition qui a lieu donc ces jours-ci. Dans ce cadre-là, où il s'agit de regarder des livres essentiellement et de l'édition papier. Et dans des expositions qu'on a eu l'habitude d'appeler des expositions satellites, qui sont en marge de l'événement ou associées à l'événement, cette question des éditions numériques a trouvé sa place. D'accord. Assez naturellement, puisque il faut le rappeler, mais ces années 90 qui ont été un moment assez éphémère de l'édition numérique, qu'on a oublié évidemment depuis les formats Internet contemporains, étaient un premier moment d'une effervescence et d'une inventivité extrêmement intéressante et remarquable, qui est devenue difficile d'accès aujourd'hui. D'où le deuxième volet de cette exposition qui s'appelle DMF, comme Dead Media Forensic, et qui correspond à des travaux de reprogrammation, d'analyse, d'extrapolation, il y a différents degrés et formats, à partir de ces objets qui font partie de mon cours d'histoire et d'archéologie des éditions numériques.
D'accord. Donc votre exposition, alors effectivement il y a deux choses, il y a l'exposition Meilleurs souvenirs de CD-ROM, donc là vous y présentez en fait votre collection personnelle, c'est ça?
Voilà, c'est une petite partie même de la collection, il y a à peu près une 60aine de titres sur au moins 350.
Pour arriver à ça, vous avez dû pratiquer, comme vous l'avez dit, de l'archéologie numérique, donc pour réutiliser ces artefacts d'un temps presque révolu. Donc avec l'atelier que vous avez nommé, donc Dead Media Forensic, qu'est-ce que vous avez utilisé comme outil, logiciel, matériel pour arriver à lire ces médias et les restituer sous une autre forme?
Alors du point de vue du matériel, moi, c'est assez simple, j'utilise essentiellement des anciennes machines. Surtout Apple, puisque la firme californienne à l'origine a beaucoup investi dans le multimédia très tôt. Du côté de Windows, les choses ont souvent été portées plus tardivement et culturellement, ou peut-être un peu moins d'intérêt. En tout cas, moi, je possède ces machines anciennes qui fonctionnent quand on les entretient, c'est-à-dire qu'en fait, il faut les faire marcher assez régulièrement. Mais je dispose des machines qui permettent de lire de manière native ces titres dans les systèmes d'origine, dans d'assez bonnes conditions, on va dire, donc c'est une partie de mes cours. Et puis, pour ce qui est des choses plus contemporaines, ou quand on veut les voir sur des machines plus récentes, on peut pratiquer avec des émulateurs. Et en particulier, alors là, je dois remercier mon collègue Dominique Cunin, qui est l'expert, qui m'accompagne dans cette aventure pédagogique. On utilise en particulier un outil qui s'appelle ShipShaver, qui est un émulateur assez complexe et très efficace, qui lui-même demande des mises à jour, puisqu'il est aussi pris d'obsolescence. Mais quand on maîtrise bien les usages et qu'on connaît les forums qui permettent de mettre à jour l'émulateur sur des machines contemporaines, on peut émuler la plupart des titres. Alors du côté de la musique et du son, on a parfois des difficultés, les temps de latence, l'émulation prend elle-même des ressources. C'est souvent l'aspect le plus décevant, voire problématique, quoi. Mm-hmm. Voilà.
Et sur les vieilles machines, est-ce que vous avez pensé à changer les condensateurs? Parce que ça fuit ces choses-là et ça détruit tout.
C'est des machines portables, je pense que quand on les ouvre, il faut vraiment avoir des compétences.
Effectivement.
Pas vraiment les nôtres. Donc moi, j'essaye surtout de les faire tourner. Mmh. Et puis, c'est vrai que c'est une obsolescence qui est de toute façon attendue. On sait qu'on ne pourra pas maintenir très très longtemps les machines, d'où l'importance des méthodes de l'archéologie, c'est-à-dire documenter documenter les projets eux-mêmes, faire des captures d'écran. Et d'ailleurs, dans l'exposition ici, puisque je dois aussi signaler que cette exposition a été montrée une première fois au Havre à l'invitation de Bachir Soussi Chiadmi, qui est un enseignant de l'école du Havre. Donc on l'a reconditionné ici dans d'autres formats et d'autres vitrines. Et là aussi, je dois remercier le musée de Valence, puisque grâce à un prêt, ces vitrines ont une vraie qualité qui permettent une organisation dans l'espace et de conserver les documents, de les présenter de la manière très opérationnelle. Je dois les remercier parce que c'est des conditions de démonstration très professionnelles.
Est-ce que vous êtes rapproché d'associations de préservation numérique, notamment Silicium ou ME5.com? Enfin, est-ce que vous les connaissez?
Non, moi je connais pas le réseau dont vous parlez, qui est peut-être un réseau local ou grenoblois, lyonnais, je sais pas.
Alors à Grenoble, il y a Aconit, effectivement, qui fait un peu le même travail. En fait, c'est des associations qui justement tentent de préserver ces machines, les supports et tout ça, et qui font un vrai travail muséographique pour le coup de documentation, de préservation. Donc peut-être que, enfin, ça sera quelque
Oui,
chose
bien sûr.
à voir d'essayer de faire des ponts avec ces associations, justement.
Oui, c'est sans doute une idée intéressante parce qu'on rencontre parfois des problèmes matériels. Mais à vrai dire, c'est vrai que ce qui m'intéresse dans cette aventure et cette histoire, c'est les contenus culturels et comme je disais tout à l'heure lors de la présentation dans l'expo, j'ai essayé d'identifier des objets qu'on peut appeler des CD-ROM d'auteurs. C'est-à-dire, artistes me paraît trop restrictif, même si une grande partie sont surtout des artistes, mais il y a aussi des designers, des programmeurs. L'autre terme plus vague, ce serait culturel, le terme qu'on employait beaucoup dans les années 90. Mais là, culturel, c'est trop large. Par exemple, dans la collection, même si je l'ai évidemment, le Louvre, c'est pas des objets qui m'intéressent le plus, même si c'est très mainstream et c'est un des rares titres qui a eu un succès commercial, économique, etc. Il y a plusieurs versions du Louvre, d'ailleurs. Mais là, c'est plutôt des objets où on peut identifier un auteur ou un éditeur, un projet singulier. Et c'est cette singularité d'auteur qui m'intéresse le plus. Donc, les machines, bah voilà, je suis moins intéressé par la question technologique des machines que ce qui a permis ce moment très particulier, qu'il y a une convergence entre des machines, des enjeux culturels et un désir de publication. Et c'est là où peut-être ça trouve sa place légitime dans l'exemplaire, puisqu'il y a l'idée de publication, rendre public à un certain nombre et au plus grand nombre éventuellement. Ceci dit, c'est une histoire qui a été plutôt un échec, c'est-à-dire commercialement. Les conditions de production étaient très, très exigeantes. Ça demande des compétences à la fois graphiques, éditoriales, de programmation, de musique aussi, puisque ce qu'on appelait donc le multimédia interactif avait recours à ces différents métiers qui sont finalement ceux de la production du cinéma. Et les coûts étaient relativement élevés. C'était au minimum un moyen métrage, non plus. Alors que les débouchés économiques derrière ces objets matériels étaient souvent décevants.
Et avec une durée de vie assez courte, en fait, sur l'étagère.
Voilà, avec ces questions de rapport aux machines, d'obsolescence qui était déjà rapide, quoi. Dans les années, ça marchait pas toujours très bien. Et puis aussi, il faut le dire, certains projets qui n'étaient pas de très bonne qualité. Donc voilà, là, on a dans la collection plutôt des objets très singuliers qui ont un intérêt historique, mais tout se vaut pas, quoi.
Est-ce qu'il y a des supports justement que vous n'êtes pas arrivé à lire, vous avez eu des échecs
Ah oui, alors il y en a un, il n'est pas vraiment dans ma collection, mais je l'ai identifié. Voilà, c'est un objet assez étrange qui a été fait aux États-Unis, la collection de Frank Lloyd Wright, le grand architecte. C'est un CD-ROM extrêmement intéressant. Alors, on a gardé des sources. C'est un objet qui était très protégé. Et je crois qu'il contient 5000 dessins d'origine en très haute définition. Il appartient à la collection des Arts Déco à Paris qui m'avait prêté, mais je ne le possède pas. C'est un objet extrêmement difficile à trouver, qui a été édité en très petite quantité. Enfin, c'est un objet tout à fait atypique et il est complètement verrouillé par des disquettes avec des codes. Enfin, on est en 94, si je ne me trompe pas.
C'est le début des DRM.
Voilà, c'était une manière de le protéger et je pense qu'à l'intérieur, il y a une archive extrêmement passionnante de cet architecte. Et bon, ça fait partie des choses qu'on a laissées en attente, mais je pense que l'exploration doit être assez passionnante et c'est un objet très rare, voilà, qui n'est même pas dans ma collection, mais que j'ai identifié. Et les Arts Déco à Paris ne l'ouvrent pas non plus, mais il est conservé là-bas. Donc ils me l'ont prêté pour l'expo du Havre. Là, je n'ai pas redemandé le prêt.
Ils ont les hiéroglyphes, mais ils n'ont pas la pierre de Rosette, hein, quoi.
Exactement, ouais, c'est un peu le problème qu'on rencontre.
Vous avez souhaité réifier certaines de ces scènes oubliées par des maquettes, enfin au moins une maquette. Parce que il y a effectivement dans certains CD-ROM, il y a des vidéos ou des images prises de scènes en 3D. Comment vous y êtes pris? Qu'est-ce que vous avez utilisé comme outil?
Alors, ouais, vous faites référence à une maquette centrale dans l'exposition qui s'appelle Outline, enfin, qui est liée à une publication du CNAI, le Centre national de l'estampe et de l'imprimé, qui était à Château et qui a déménagé récemment là, qui a publié Peter Donsbrough, donc ce titre qui est un catalogue d'artistes dont l'interface est un espace 3D qui ressemble beaucoup et qui fait référence directe à des maquettes que l'artiste, de nombreuses maquettes qu'il a faites, puisqu'il intervient dans l'espace public, donc il intervient sur des bâtiments en y insérant des formes, des injonctions, des fragments, de locutions. Pour maqueter enfin pour prévisualiser les installations éventuelles qu'il peut faire, il fait des maquettes très sommaires en carton, avec des mots-clés, etc. Donc l'idée, c'est que les gens qui ont développé ce catalogue se sont servis d'un lieu, je pense, imaginaire et recomposé à partir de différentes pièces de cet artiste. Et j'ai trouvé ça intéressant effectivement, de lui donner une présence physique qu'elle n'a jamais eue. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, Peter Donsbrough, qui est un artiste belge, n'a pas fait cette maquette exactement. C'est les éditeurs qui ont eu l'idée de modéliser en 3D cette maquette. Et donc à partir des 10 images, puisque c'est la 3D, mais c'est pas une 3D temps réel auquel on accéderait par le CD-ROM, ce sont
Des captures d'écran d'un
voilà, des
rendu.
captures d'écran, et on scrolle d'une image à l'autre avec des fondus. C'est très statique finalement, même si la modélisation a été faite sur une station à l'époque, probablement. On est en 99, hein, donc on ne disposait pas sur CD-ROM de pouvoir générer le 3D temps réel. Voilà, il y a des plugins qui sont apparus sur le web un peu plus tard. Mais on n'avait pas cette solution. Même dans Director, on aurait peut-être pu le faire, mais en tout cas, ça n'a pas été
Et
fait.
on sait pas ce qui est devenu du modèle 3D
Voilà.
ça.
Et voilà. Alors, même si je connais Aurélien Bombadioni qui l'a développé, je lui ai pas demandé de fouiller dans ses archives et j'ai eu peut-être l'idée de produire un artefact, on va dire, très ressemblant, en tout cas très fidèle à ce que Peter Donsbrough aurait pu faire, même si elle est un peu plus dense, on pourrait dire, parce que ses maquettes sont plus épurées. Là, on a une grande maquette très riche qui rend, je crois, assez justice à l'expérience qu'on peut faire de cette interface, en tout cas. Voilà. Alors, j'ai pas utilisé d'outils. Curieusement, j'ai cherché une solution pour. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que il faut prendre un point de départ quand on veut instancier un objet à partir de la 3D. Et ce point de départ était très prosaïque, en fait. Il y a sept petits bâtons au centre. Et je suis parti d'objets très simples à trouver, c'est des brochettes de bois qui sont de 3 mm. En partant de cette échelle, m'a donné toute la maquette. Je savais pas du tout d'ailleurs que ça m'amènerait à 2 mètres de long, parce qu'en
Elle est assez
réalité,
imposante,
voilà,
effectivement.
je suis parti de petits bouts de bois. Je m'étais dit ce serait une petite maquette, et en prenant des petits bâtons de 3 mm par 9 cm de haut, ça a donné l'échelle du bloc qui
Aller
a
prendre des
15
soupes à
cents.
soupe, c'était pas.
Mais je savais pas où ça m'amenait, mais je trouvais ça assez manipulable à l'échelle du carton, etc. Donc à partir de cet élément central est venu le bloc principal qui supporte un autre bloc, et de proche en proche, on fait des extrapolations, alors le plus précise possible, mais pas vraiment scientifique. Peut-être qu'il y a une méthode que j'ai pas trouvée d'ailleurs. J'ai cherché une manière de, parce que je connaissais dans mes études, j'ai fait des portées, enfin, ce qu'on appelait des dessins perspectifs. On part d'un plan, on fixe un point de hauteur, on fixe un point de distance, et avec des jeux de rapports
On peut
mathématiques,
retrouver la
on peut
projection
trouver
et
les projections. Et par contre, je ne sais pas s'il existe une méthode empirique de calcul
il y
à
a des
partir
choses.
d'images 3D pour trouver le plan. Alors, on va dire, j'ai un peu buté, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de solution satisfaisante. Donc, je suis parti plutôt sur un mode un peu empirique, et d'image en image, j'ai fait des suppositions de taille en faisant des reports quand même en tenant compte des perspectives. Donc j'ai dans les plans qui étaient adjacents, je savais des hauteurs, j'ai reporté ces hauteurs sur les plans adjacents, et de proche en proche, j'ai une maquette qui est très ressemblante, on va dire. En tout cas, on peut retrouver des points de vue qui sont très très proches des images de la 3D initiale, et surtout c'est un objet assez imposant, puisque maintenant il fait 1,60 m par 2 m, et il a une présence d'ailleurs que les étudiants m'ont aidé à produire, puisqu'ils ont participé au montage. On a vraiment à la façon de Peter Donsbrough, un socle en bois épuré sous forme d'arête parallélépipède, qui lui donne une bonne en visibilité. On est à hauteur d'œil comme si on était en immersion, voilà, le plus possible.
C'est effectivement très épuré. On symbolise peut-être des immeubles, on ne sait pas trop. Enfin, il y a des volumes, des parallélépipèdes, rectangles un petit peu partout, et puis
Oui.
des poteaux comme ça qui dépassent, et puis quelques lettres, enfin des morceaux de mots parfois coupés, etc. Qui a fallu arriver à fabriquer d'ailleurs
Oui, d'ailleurs,
au
ouais.
Fabrico, mais j'y étais parce que c'est moi qui ai procédé à la découpe. Eh bien, merci beaucoup. On va se faire éjecter là par les travaux, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler sur Radio Méga.
Merci beaucoup, François.
Voilà, voilà pour cette interview réalisée en dehors. On s'est dit on va se mettre dehors et puis finalement c'était peut-être pas la meilleure solution.
Mais... Eh oui, eh oui.
Bon, merci à Medbel pour le filtrage encore une
fois. Ah oui, Medbel nous a fait un tour de magie. Vous avez pas entendu la scie circulaire, les claquements de marteau, les oiseaux, l'avion. Enfin, moi quand j'ai fait le montage, j'ai fait non, au secours.
Voilà, bon, en tout cas, ouais, l'interview, l'exposition en elle-même, c'est intéressante. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choses, mais c'était intéressant quand même de voir ça d'une façon muséographique. C'est des objets que nous, on a connus et qu'on utilise encore, mais ça fait un peu bizarre de voir ça sous des plexis et tout.
Oui, oui.
Voilà.
Allez, une petite musique et on se retrouve tout de suite pour l'agenda. À tout de suite. Vous êtes bien sûr Underscore. Et nous venons d'écouter la musique Out Jump et Sweet Says de The Mind. Donc c'est une musique créée encore une fois par Virgile. Et il s'agissait d'une musique qui a terminé première dans une petite démo. Une démo Pico 8. Je sais pas, c'est assez particulier.
C'est un
hein.
peu comme Tic 80, c'est des consoles fantasy
qui n'existent
pas.
Pas
en vrai, mais avec des émulateurs qui existent, eux.
Et voilà. Et c'est très sympa parce que vraiment, le Pico 8, c'est quelque chose de très accessible pour celui qui ne connaît pas forcément.
Ouais, on peut faire un espèce de basique et tout.
C'est ça. C'est ça. C'est vraiment très, très intuitif et c'est vraiment basique. Et ouais, pour ceux qui sont un petit peu curieux, tapez Pico 8 sur votre navigateur internet et vous allez peut-être découvrir des choses sympas. Passons à l'agenda. Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rétivisions le samedi.
Ah.
Atelier LibriTech, le cycle d'ateliers d'initiation au logiciel libre reprend.
Non, c'est la semaine suivante.
Ah, mais parce que c'est, ça n'a pas marché. Alors, je te laisse faire.
Vas-y, Matt Bell.
Initiation e-sport. Plusieurs animations gratuites sont proposées à Chabeuil durant la semaine 100% ado du 15 au 19 avril 2024. Mercredi 17 avril, de 14h à 18h, Centre culturel chemin rue des Prés, du Pré, quoi, au Dame, pardon, Chabeuil.
Chabeuil. Discussion, le low-tech en ville, l'autonomie, c'est pas que à la campagne. Et donc, il vous propose d'inventer l'habitat du futur en milieu urbain, d'échanger sur les fabrications, les expérimentations, et partager des techniques simples et accessibles pour mieux vivre chez soi en limitant les impacts. Pour la convivialité, pensez à apporter une boisson et du grignotage. Ça, c'est sur inscription, jeudi 18 avril, 17h30 à 19h30. Au Valence Atelier Libre, 13 bis rue Montplaisir.
Mais d'ailleurs, ce sujet sur le milieu du futur avec le low-tech, tout ça, d'ailleurs, par rapport à ce sujet, moi, j'aimerais bien comment ils vont faire pour gérer le compostage en ville.
Bah écoute, on met des bacs un peu partout.
Et... ouais, bah, là, pour l'instant...
On en a au Fabrico, d'ailleurs.
Ah, vous en avez, ouais, nous, on n'a rien du tout au Polygone.
On a demandé. Ah ouais, bah, oui, bah, faut demander.
Allez, tournoi.
Restait, oui, vas-y.
Tournoi Super Smash Bros. Melee, soirée rétro gaming avec Gamestalgie. Le ouais. Tournoi se déroulera de 20h à 22h. Des lots à gagner, inscription et entraînement sur place dès 18h. Nombre de places de participants limité. Participation gratuite, une conso par heure est demandée pour le bien de l'établissement le vendredi 19 avril de 19h à 22h au Pixel Pub, 27 rue Bouffier à Valence.
Oui.
Du lien et des liens.
Quand tu me fais ça, tu m'as fait quitter le truc.
Bah oui, bah, parce qu'il est désynchronisé, Flo. Ouais, c'est pas grave. Donc sur... bah vas-y, Maître Bell.
Maître Bell, on t'écoute.
Sur schémadatagouv.fr, on trouve désormais une page actualité avec toutes les modifications des schémas du flux RSS global et par schéma pour être alerté dès qu'un schéma est mis à jour.
La playlist YouTube de One Beat Fever Dream pour coder en C sur Macintosh 68K et faire de jolis programmes monochromes. C'est sympa, ça.
Mm-mm. Carrément. Un guide en ligne pour apprendre à lire un QR code sans ordinateur. Oh, bah tiens, c'est intéressant, ça.
Ouais. Est-ce que Flo, tu es avec nous? Non, il est perdu dans le pad, désolé.
Si, j'y suis.
Ah. Calque
Où ça? Ah oui, calque, je l'ai. Alors, Calque avec un Q dans le terminal, je ne sais pas ce qu'il fait là, et son interface graphique Calculate, aussi avec un Q, c'est calculer sans Q et résoudre des équations.
Lorem ipsum, c'est bien, mais le Qtuvion ipsum generator est beaucoup mieux. Vous aussi générez vos textes fictifs avec des bouts de monstruosité tentaculaire dedans.
Ah ah, Cthulhu! Les éditions ACBM ont mis en ligne divers articles d'archives des différents numéros du Virus Info, comme le numéro 2, et ça, c'est grâce au soutien des membres du club privé qui financent un petit peu tout ça.
Ouais,
moi, je l'ai en papier, moi, le
ouais,
numéro
j'en
2.
J'en ai quelques-uns. Je crois pas avoir le numéro 2. Mais...
Oh, j'en ai quelques-uns aussi à la maison. Néanmoins, vous pouvez retrouver les liens sur notre blog underscore.radio.fm.
Ouais.
Astrologique, frottons cette boule. Technocritique, ne dites plus IA générative, dites plutôt production d'images par plagiat informatisé ou pipi. Ou alors copie automatisée à copyright absent ou caca.
Voilà. Toujours pas Flo ? Vas-y, Matt Bell.
Hacker, t'es un boulet, hein ? Ben, c'est logique.
Oui ou non ?
Oui ou non. Nerd.
Ah,
bah vas-y.
Ma session a fait sécession.
Ah, voilà. Bah oui, c'est ta session de Radio
Tour. Oui,
oui c'est clair. Ça, c'est clair.
Ouais. Mette Ben.
Encore non.
Graphiste.
Vas-y.
Graphiste. Quel beau plateau de tramage.
Typographe, tu t'es encore mis du gras sur les doigts. Oui, j'ai fait tatouer Love en comic MS Bold.
Électronicien, ah bah oui, c'est pour moi, parce que c'est une chanson.
Et oui.
Je te donne toutes mes interférences, tous ces défauts qui sont autant de chances.
Ce sera jamais une alim propre bien qu'il faut. Je te donne mon 5 volts pour ce que je vaux.
Je te donne.
Ouh,
je te donne.
On peut pas concurrencer de toute façon.
Non. Non, non.
Encore, je ne me suis pas échauffé. Hein.
Et encore, il nous manque Rodoudou là, pour faire les chœurs.
Ah, ben oui.
Oui. Mais ouais. Rodoudou, il revient bientôt.
Non, mais il revient, oui.
Vous inquiétez pas, les amis auditeurs. Eh bien, je crois que c'est la fin de notre émission.
Oui, oh, c'est la fin.
C'est ça, c'est la fin. Mais on se retrouve également la semaine prochaine pour une nouvelle émission à la même heure.
Ah oui.
Ça vous rassure.
Ça me rassure.
Mais là, attention, il y aura des paillettes. Et il y aura sûrement de la musique. Disco.
Ah, une boule à facettes.
Oui,
c'est ça.
Et ouais, y a... moi j'aurais des Ottawa pour l'indice, mais enfin bon, comme c'est.
Ah, t'as spoilé.
C'est vrai, c'est vrai, j'avoue. Allez, à la semaine prochaine.
Ciao.
Salut.
Bye.
Bye.
Bonjour Mimane, bonjour Nuno, bonjour Nathalie, bonjour Flo.